Alors, nous allons commencer en nous excusant de ce 15 minutes de retard. Semble-t-il, un ami français m'a dit, M. Plenel, notre collègue, que c'était normal au Québec, le 15 minutes de retard québécois. Alors, pardon pour ce 15 minutes de retard québécois. Je me présente. Mon nom est Florian Sauvageau. Je suis le directeur du Centre d'études sur les médias et professeur ci-devant titulaire, maintenant associé, parce que j'ai pris ma retraite de l'enseignement à l'Université Laval à Québec. D'abord, merci à vous tous d'être venus à ce colloque que nous sommes heureux, mon collègue de Mediate McGill et moi, d'avoir organisé à l'occasion du centenaire du devoir. Merci beaucoup de votre présence. Merci aussi à nos participants venus de l'étranger pour passer cette journée avec nous. Je trouve que ce sont des gens audacieux d'avoir accepté notre demande d'imaginer l'avenir. C'est pas simple de savoir ce qui va se passer à l'avenir dans le secteur des médias. So, thank you for coming and agree so nicely to share this day with us. Thank you so much. Alors, le journal indépendant vu de l'esprit ou phare de la démocratie. Je pense que tout cela, et ne craignez rien, nous trois ce matin, on ne va pas faire de grandes interventions, ce sera très très bref. Ce que je veux faire quant à moi, c'est de poser une question qui me semble la question préalable, d'une certaine manière, à nos débats d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, diable, qu'un journal indépendant? La réponse qu'on entend le plus fréquemment, c'est la réponse la plus simple, mais je pense personnellement que c'est une réponse incomplète, c'est de dire un journal indépendant, c'est un journal qui n'appartient pas à un groupe. Un journal, comme notre collègue Claude Martin l'écrivait dans le cahier spécial publié sur ce colloque mercredi par Le Devoir, un journal qui n'est pas soumis ou contrôlé financièrement par une autre entreprise. Ce serait un journal indépendant. Si on retient cette définition au Canada, selon le classement de l'Association canadienne des journaux, il y aurait 4 journaux indépendants. Ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire que notre presse, majoritairement, serait soumise à quelque intérêt, ce qui fait que, personnellement, cette réponse ne me satisfait pas. 4 journaux indépendants au Canada, bien sûr, il y aurait le Devoir, et les 3 autres journaux indépendants seraient, selon, c'est une information de 2008 de l'association que j'ai glanée dans les informations fournies par l'Association des journaux canadiens. Les autres seraient l'Acadie Nouvelle, un journal de Flin Flon au Manitoba et le White Horse Star, donc 4 journaux indépendants. On ne classifie ou ne classe même pas le Winnipeg Free Press dans la catégorie des journaux indépendants parce qu'il y a 2 journaux qui appartiennent au Winnipeg Free Press, au groupe FP, le Brandon Sun et le Winnipeg Free Press. Donc, 4 journaux indépendants, c'est peu. Aux États-Unis, évidemment, il y a de moins en moins de journaux indépendants, alors que, après la Deuxième Guerre mondiale, 75% des journaux américains étaient indépendants et appartenaient surtout à des familles. Parce qu'à l'époque, c'était l'époque des journaux de famille. C'était la même chose au Québec, d'ailleurs. Moi, mon premier poste dans le vrai journalisme, parce qu'avant, j'avais travaillé à la radio et on disait que ce n'était pas du vrai journalisme. C'était au Soleil à Québec, où j'étais le directeur de l'information. C'était le journal d'une famille, la famille Gilbert. Est-ce qu'on est plus indépendant quand on travaille dans un journal qui appartient à une famille que si on travaille dans un journal qui appartient à un groupe? C'est une question pour le débat, pour un autre débat. Mais ce sont des questions qu'on peut poser. Les journaux aussi, auparavant, appartenaient à des partis politiques. Est-ce qu'ils étaient plus indépendants? Est-ce que le Montréal Matin de l'Union nationale et de Maurice Duplessis journal supposément indépendant, puisqu'il n'appartenait pas à un grand groupe commercial, est-ce que journal, ce journal était plus indépendant que le Winnipeg Free Press, par exemple, qui appartient à un tout petit groupe? Ce sont des questions dont on pourrait débattre longuement. Deux autres sous-questions, et ensuite je vais passer la parole à mon collègue Marc. L'indépendance, est-ce que c'est synonyme de qualité? Un journal peut être indépendant, mais ce n'est pas, évidemment, dans le cas du Devoir, bien sûr, l'indépendance va de pair avec la qualité, mais est-ce qu'un journal, par une vocation, quelconque vocation divine, son indépendance lui conférerait une mission de qualité automatiquement? Je ne pense pas. Je pense qu'il doit y avoir une volonté de la part du propriétaire de ce journal d'en faire un journal de qualité. Et est-ce qu'à l'intérieur d'un groupe, un petit groupe, M. Hendrick nous en parlera tout à l'heure, un groupe comme le Toronto Star, qui n'est pas un groupe avec 50 journaux, est-ce qu'on ne peut pas aussi être indépendant? Je ne le sais pas. Ça fera partie de nos discussions d'aujourd'hui. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui doit être indépendant? Est-ce que c'est le journal qui doit être indépendant? Ou est-ce que ce sont les journalistes qui doivent être indépendants? Qu'est-ce qu'il faut protéger? L'indépendance du journal ou l'indépendance de la rédaction? Il y a 30 ans, la Commission royale sur les quotidiens au Canada, la Commission Kent, avait proposé un mécanisme pour garantir l'indépendance du rédacteur en chef à l'intérieur des groupes. Alors, qu'est-ce qu'on privilégie? L'indépendance du journal, comment on la définit, ou l'indépendance rédactionnelle, celle des journalistes? Alors, voilà, quand je dis ce sont des questions préalables, je pense que d'une certaine manière, c'est le cadre dans lequel on doit envisager nos discussions d'aujourd'hui, mais qui porteront spécifiquement sur le journal indépendant du 21e siècle, ses contenus et ses modes organisationnels. Mon ami Marc Raboy, avec lequel je travaille depuis des années et avec lequel j'ai eu grand plaisir à organiser ce colloque.
Merci, Florian. Lorsque Florian Sauvageau m'a contacté il y a presque 2 ans pour demander si nous ferions quelque chose ensemble pour marquer le centenaire du Devoir, je n'ai pas hésité une seconde avant de dire oui. Il faut le faire et on va le faire. On était déjà en début de ce qu'on appelle maintenant la crise de la presse. Et la question qu'on se posait au départ était en effet, est-ce qu'il y aura encore des journaux quand viendra le moment de fêter ce centenaire? C'était un peu exagéré peut-être, mais quand même pas si exagéré que ça. En fait, la crise de la presse, et encore plus celle de la presse indépendante, ne date pas d'hier ou d'avant-hier, et elle n'affecte pas que les journaux, mais l'ensemble des médias de l'information. Aujourd'hui, nous parlons du journal indépendant. Il y a quelque temps, et encore, c'était le sous-financement des radio-télévisions publiques. Pendant ce temps, les médias communautaires vivent dans un état de misère chronique, et bientôt, je suis certain, ce sera le tour des merveilleux nouveaux médias de crier au secours. En fait, tout cela s'inscrit dans un courant historique de longue durée, pour reprendre la formulation célèbre de l'historien Fernand Braudel. Il y a une tendance lourde qui devrait plutôt nous préoccuper, la tendance vers la marchandisation de l'information, de toute information. Depuis quand existait-elle? La réponse des historiens est surprenante. Pour certains, le déclin de l'information indépendante de qualité date du début de l'ère des grandes entreprises de presse dont on est en train de témoigner au déclin. L'invention du modèle d'affaires classique par Joseph Pulitzer et d'autres au 19e siècle, ce modèle fondé sur l'information populaire et divertissante, financé par les revenus publicitaires et la vente en dessous du coût de la production et la distribution, l'implantation de ce modèle dont nous pleurons aujourd'hui la disparition, dans les grands centres urbains il y a 150 ans, dont des exemples que nous connaissons bien ici à Montréal se nomment La Presse ou The Gazette, L'implantation de ce modèle a déjà entraîné ce que le philosophe allemand Jörn Habermas a appelé la transformation structurelle de l'espace public. Lorsque 50 ans plus tard, la radio et 50 ans après elle, la télévision sont apparues, des modèles semblables ont vu le jour dans ce qui était alors les nouveaux médias de l'époque. Dans ce contexte, la survie d'un journal comme Le Devoir est véritablement un miracle. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il fait. Ce centenaire mérite d'être souligné parce qu'il nous rappelle qu'il y a d'autres chemins à prendre, d'autres possibilités pour le journalisme, une autre logique pour le monde de l'information que la logique marchande. On nous avait prévenu que la qualité de l'information ne préoccupait plus les gens. Votre présence infirme cela. Vous êtes une fabuleuse assistance. Je vous souhaite un beau colloque en demandant maintenant au directeur de Devoir, Bernard Descoteaux, de vous adresser quelques mots et de présenter notre conférencier principal. Merci d'être venu et bon colloque.
Alors, merci beaucoup. Alors, merci, bienvenue. Et tout d'abord, je voudrais remercier Florian Sauvageau et Marc Raboy pour l'organisation de ce colloque. D'emblée, lorsque nous avons commencé à penser à fêter les 100 ans du devoir, nous avions pensé à tenir un colloque sur la presse indépendante et encore fallait-il le réaliser. Alors, dont acte pour le travail du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval et médias at McGill. Et merci aussi à vos collaborateurs, je pense particulièrement à Claire Roberge, Daniel Giroux et André Boutillier qui a aussi contribué à l'organisation de cet événement. Ce colloque ne porte pas sur le devoir, et c'est intentionnel. Je sais, nous sommes un cas d'espèce, mais il y a déjà assez bien d'études qui ont été faites sur le devoir. Il y en a encore d'autres qui sont en cours. Il y en aura sûrement d'autres à venir dans les prochaines années. Alors, nous souhaitions plutôt avoir un regard large sur la question de la presse indépendante. La présence des médias indépendants m'apparaît personnellement être une chose non seulement souhaitable, mais absolument nécessaire. Au Québec, comme dans le reste du Canada, pour ne pas parler d'autres pays, nous évoluons maintenant dans un contexte d'hyperconcentration des médias. La concentration est horizontale et transversale, car elle rejoint tous les types de médias. C'est vrai pour Québécois comme pour Canouest et CTV Globe Média, qui disposent de tous les genres de supports de diffusion. Journaux, télévision, sites Internet et, dans certains cas, en plus, le canal de la câblo-distribution. Jessica, qui procède de 7 quotidiens au Québec, se distingue, n'ayant pas de télévision, mais se glisse quand même dans ce domaine par le biais d'une maison de production, la presse télé. Il y a 10 ans, quand la dernière phase de concentration s'est réalisée, j'avoue avoir craint pour la survie du devoir, alors que nous allions être coincés tout à coup entre deux géants, Bécard et Jessica. Il y avait plusieurs raisons de craindre, le pire, et à certains moments, nous avons pensé que le pire pourrait arriver, car même on a reçu certaines choses comme des tentatives de nous sortir du marché. Lorsqu'on est venu essayer de vider notre salle de rédaction ou lorsqu'on a tenté d'imposer à des annonceurs des contrats d'exclusivité qui nous privaient de revenus de publicité importants. Mais ne prêtons pas d'intention malveillante à personne, mais disons tout simplement que nous aurions pu être la victime collatérale des affrontements entre ces deux géants, victime collatérale, mais surtout pas consentante. 10 ans ont passé, et il faut tirer quelques constatations ou conclusions. Tout d'abord, que la concentration des médias est un fait avéré. Il faut composer avec ce phénomène, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il n'y a rien à attendre des gouvernements, ou si peu à cet égard. Les gouvernements n'ont pas voulu intervenir par le passé, sinon par des commissions ou des groupes d'études dont les rapports dorment sur les tablettes. Et la commission Ken, dont Florian évoquait le travail il y a 30 ans, et les idées très généreuses qu'ils avaient mises de l'avant, aucune n'a été réalisée, bien sûr, et par-dessus s'empilent bien d'autres rapports. Et de nouveaux groupes d'études ont été créés. Un nouveau groupe a été créé à Québec. J'aimerais bien être contredit lorsqu'elle fera, Mme Dominique Payette fera son rapport là-dessus et que la ministre de la Culture et des Communications le recevra. Par contre, la concentration, même à un niveau, surtout à un niveau tel qu'on connaît aujourd'hui, entraîne nécessairement une réaction. C'est vrai dans plusieurs domaines. Je donne par exemple l'aviation. Lorsqu'il y a quelques années, Canadiens et Air Canada ont fusionné, la réaction a été tout simplement que de nouveaux joueurs sont apparus, notamment WestJet, qui est devenu un grand transporteur et pour faire concurrence à Air Canada. C'est la loi de la concurrence et peut-être pourrait-on croire que dans le domaine de l'information, il y en sera de même. Mettons un point d'interrogation important quand même. Parce que des espoirs de ce côté-là, on ne peut compter là-dessus en réalité de façon très certaine. Mais il y a une constatation que je fais, c'est qu'au bout de ces 10 ans, si le devoir se porte mieux qu'il y a 10 ans, il y a des raisons. Sa diffusion a augmenté, elle s'est maintenue et a augmenté sensiblement, particulièrement le samedi. Et nous avons, en 2009, une année qui sera une des meilleures années que nous aurons connues à tous les points de vue. Personnellement, j'y vois la confirmation qu'il y a un besoin et une soif d'entendre des voix différentes, de lire des points de vue qui s'expriment en dehors des credos de l'heure ou des modes du moment. Qu'existent des espaces pour la liberté d'opinion, c'est nécessaire. Et qu'existent des médias dont le but premier est le service public et non de profit est une nécessité tout à fait évidente. On peut espérer que des médias indépendants vont naître dans l'avenir, que le web sera une rampe de lancement à cet égard. Ce ne sera pas simple ni facile, mais c'est possible. Tous ceux qui ont travaillé au devoir ou qui y travaillent aujourd'hui le savent, la presse indépendante est un combat de tous les instants dans lequel il faut investir temps, énergie et argent. Oui, car argent, car ceux qui y croient parmi ces artisans feront aussi le sacrifice de salaire confortable qu'on trouve dans les grands groupes. Mais c'est le prix à payer pour s'offrir cet espace de liberté. Si l'État croit que les médias indépendants sont essentiels à la vitalité de notre système démocratique, il devrait voir à faciliter et à créer des conditions favorisant leur émergence. Par exemple, et c'est un seul exemple, mais je pourrais en donner plusieurs, il devrait ranimer le fonds de l'autoroute de l'information qu'il a aboli en 2003 et à qui avait permis à certains joueurs dans le domaine des médias de s'affirmer sur le web. Pour l'essentiel, nous avons appris quand même, nous, de voir qu'au fil de nos 100 ans, qu'il faut d'abord compter que sur nos propres moyens. Nos propres moyens, c'est une formule que j'emploie souvent, que j'ai retenue des mouvements syndicaux des années 1970, et c'est ce qui traduit le mieux ce qui est la réalité de la presse indépendante. On peut compter aussi sur nos amis, car nos amis, nous en avons, ils sont un peu partout dans la société. Il y a des gens qui croient à la nécessité de la presse indépendante, et les plus importants de ces amis sont évidemment nos lecteurs. Nos lecteurs, au devoir, sont aussi nos actionnaires. C'est avec eux que nous formons une communauté qui est le pilier de notre indépendance. C'est cette communauté qui, tous les jours, nous permet d'être là le lendemain et qui est une communauté qui n'attend qu'une chose de nous, d'être bien informée. Donc, je jette un regard empreint d'un certain optimisme sur l'avenir d'une presse indépendante, pour peu qu'on ait le goût de se battre et de relever des défis. Ce qui relève les défis m'amène à vous parler maintenant d'Edoui Plenel, notre premier conférencier. J'ai eu le plaisir de rencontrer Edoui Plenel lorsqu'il était le directeur de la rédaction du journal Le Monde, un journal où il fut pendant 25 ans et qu'il a marqué par son talent et sa détermination comme journaliste d'enquête. Mon collègue Christian Rioux, dans le cahier spécial qu'on a publié, l'a qualifié de hyper-journaliste. Je pense que ça lui va bien. Alors, c'est quelqu'un qui, tout au long de sa carrière, selon une formule un peu consacrée, a supporté la plume dans la plaie, comme on dit. Comme directeur de la rédaction au Monde, il formait un tandem avec le directeur Jean-Marie Colombani. Ensemble, ils ont voulu donner à ce journal un nouvel élan. Pendant que Colombani travaillait à donner des assises financières au journal et à créer un groupe, Edoui Plenel, lui, faisait Le Monde. C'est lui qui, durant ces années, a donné à ce journal sa couleur, sa personnalité. C'est lui qui a nourri pendant ces années sa combativité. Le tandem s'est brisé sur certains écueils et Edoui Plenel est allé voir ailleurs. Cet ailleurs, ce fut Mediapart, un journal payant sur Internet, un journal indépendant qu'il veut être une contribution à une presse libre, à un espace de liberté. Et je pense que c'est un exemple, justement, de la combativité qu'il faut pour créer une presse indépendante. Edoui Plenel, à vous.